terre de valeurs et de traditions, le Pays Basque foisonne d'entreprises innovantes. En 2020, le territoire s'est vu attribuer le label officiel de la French Tech par le ministère de l'Économie et des Finances. Je m'appelle Nila Tiberinck, je suis Community Lead pour la communauté French Tech Pays Basque qui a pour objectif de mettre en lumière les sociétés innovantes locales. Tous les jours, l'association accompagne des femmes, des hommes ambitieux, avec pour objectif de les soutenir, de leur apporter de la visibilité et de créer des synergies avec l'écosystème. Elle œuvre également pour favoriser leur développement à l'international. Avec ce podcast, Leader Inspirant, je vous propose de rencontrer ces dirigeants, ces passionnés, bref, ces personnes animées qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision de leurs produits et services de demain. En 2020, en plein Covid, Iban Olsomendi cofonde la société Flity, une solution de gestion de flotte de véhicules et d'équipements, un projet monté au Pays Basque, basé sur la technopole isérabelle Abidar, mais fortement ancré en Afrique. En résumé, avec un même capteur sur un véhicule, l'équipe récolte de nombreuses données en temps réel pour aider les sociétés à réduire leur coût opérationnel, gérer leur impact environnemental et renforcer la sécurité. Nous le recevons aujourd'hui à ce micro pour parler de son parcours, de la société Flity, des premiers clients en Afrique et de son déploiement en France. Bonjour Iban.
Bonjour Nina.
Bienvenue au micro des leaders inspirants de la French Tech Pays Basque. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous parles de Flity, de ton parcours qui est très tourné vers l'international. D'ailleurs, à 18 ans seulement, tu choisis de quitter Saint-Jean-Pied-de-Port, ce magnifique village, ton village natal au Pays Basque, pour suivre des études à Toulouse, à Lille. C'est bien ça ?
C'est ça, effectivement. Alors, je suis né à Bayonne, mais j'ai vécu à Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à l'âge de 18 ans. Et il y a 18 ans, comme beaucoup de monde, je pense, dans un petit village, j'avais des envies d'autre chose et de bouger un petit peu. Et je suis parti en prépa, d'abord en classe préparatoire à Toulouse. Et ensuite, j'ai été en école de commerce à l'EDEC à Lille.
C'est pas la même météo.
Non, clairement. J'ai traversé la France, mais c'était super pour le coup. Lille, j'étais très sceptique, pour tout te dire, à l'idée d'aller à Lille au départ. Et en fait, ça s'est super bien passé. C'est une super ville étudiante et je me suis éclaté là-bas.
Et tu ne t'arrêtes pas là puisque tu pars en Inde, au Brésil, au Mexique. Tu as choisi tout de suite de partir à l'étranger pour réaliser tes premiers stages. Pourquoi avoir eu cette envie de partir ?
Alors moi, dès le départ, quand donc, je suis parti de Garassi, donc Saint-Jean-Pied-de-Port, je savais que j'avais envie de bouger dans le monde entier, de découvrir plein de choses. Et j'ai vu qu'en école de commerce, un des gros avantages de l'école, c'était justement de pouvoir faire toute une partie de la scolarité à l'étranger, que ce soit par des stages ou des échanges universitaires. Donc moi, tout ce que j'ai pu faire, bah, je l'ai fait. Dès la première année, je suis parti en Inde. J'étais déjà passionné de ce pays. J'étais parti à 18 ans avec un ami du Pays Basque, d'ailleurs en Inde, en sac à dos, où on s'était fait 2 mois. C'était mon premier voyage sac à dos.
Génial, c'est mon pays.
Et je suis tombé amoureux, moi, du coup, de ce pays-là. Et derrière, j'ai eu l'occasion de partir donc, pour le groupe Capgemini, sur mon premier stage à Mumbai. Et ensuite, à partir de là, j'ai refait une année à Lille. Et derrière, en fait, sur mes 2 premières années d'école de commerce, j'ai monté à côté de ça un projet. D'accord. Avec 3 autres étudiants où on avait pour objectif, à l'époque, il y avait c'était le début de tout ce qu'on appelait l'entrepreneuriat social,
oui.
Qui aujourd'hui est devenu un concept qu'on connaît et qui se déploie beaucoup. Et tant mieux. Mais nous, on était aux prémices et du coup, on a essayé de créer un projet autour de ça en allant travailler dans différentes entreprises dans ce domaine-là. Donc, on a fait financer ce projet-là. On a fait tout ce qui était possible pour récolter de l'argent pendant 2 ans et on s'est lancé. Donc, on a travaillé 3 mois en Inde, 3 mois au Sénégal et ensuite 3 mois au Brésil.
D'accord.
Dans 3 entreprises sociales différentes, dans le domaine de l'agriculture en Inde, de l'énergie solaire au Sénégal et de la santé au Brésil. Et voilà, donc ça a été toute une partie de mon année de césure. À côté de ça, j'avais fait de la banque d'affaires, donc deux mondes, grand écart complet, mais c'était intéressant de passer par là aussi. Et ma dernière année d'études, j'avais l'option de revenir à Lille ou de la faire à l'étranger. J'ai encore pris l'option de l'étranger et là, je suis parti au Mexique. J'étais au Tech de Monterrey et j'ai travaillé. Du coup, j'ai fait un double diplôme là-bas et je suis resté 1 an à Mexico.
Donc un parcours hyper enrichissant avec tous ces pays, ces projets complètement différents et cette fibre entrepreneuriale déjà, en fait, au tout début. Et du coup, tu reviens à la capitale, tu bosses à Paris Et la bougeotte te rattrape un peu et tu réponds à une offre d'emploi pour Jumia, c'est l'Amazon africain. Est-ce que tu peux m'en dire plus ?
Oui. Alors effectivement, je suis revenu à Paris, j'ai commencé à travailler à la Défense, comme beaucoup de gens. Le retour a été difficile, du coup, on ne va pas se mentir. Mais je l'ai fait donc, pendant un temps où j'ai travaillé en conseil en finance. Et derrière, effectivement, j'ai eu une opportunité pour le groupe Jumia de partir sur le Sénégal. Je savais, j'avais déjà été au Sénégal, je savais à quoi m'attendre. Mais j'y suis surtout parti au départ pour le job parce que c'était une super opportunité professionnelle. On me donnait les clés du camion d'une start-up qui était en fait où il y avait déjà à ce moment-là, quand j'ai rejoint Jumia, moi sur mon équipe au Sénégal, j'avais 30 personnes et j'étais responsable de toute la partie food delivery.
D'accord.
Donc l'équivalent de Deliveroo, ce genre de plateforme qu'on connaît en France, et aussi de toute la partie petites annonces, site de Jumia. Donc l'équivalent de Seloger.com, Le Bon Coin et tous les autres sites de ce type-là, mais sur le Sénégal. Et je suis parti là-bas et je me suis éclaté pendant 2 ans pour ce groupe-là. Alors c'était dur, beaucoup de challenges, mais j'avais 24 ans et en fait on te donne les clés du camion, quoi. 24 ans, on te dit vas-y et c'était super.
J'imagine, super responsabilité, beaucoup d'autonomie, Donc ouais, la fibre entrepreneuriale t'a suivi un petit peu. Et puis finalement, après la mission, tu décides de rester au Sénégal, convaincu quand même avec la Fédération sénégalaise du rugby qui te propose une place de joueur dans l'équipe. Du coup, tu restes 6 mois de plus. Est-ce que c'était un signe ?
Oui, alors c'est vrai que j'ai toujours eu plusieurs passions dans ma vie, hein, parce que je fais de la musique et j'aime l'entrepreneuriat, mais j'aime aussi beaucoup le rugby. Et c'est partie intégrante de ma vie. J'y joue depuis l'âge de 3 ans. Je suis vraiment passionné par ce sport. Et effectivement, je joue au Sénégal. Et à un moment, la fédération est venue me voir et m'a dit « Écoute, ça fait plus de 3 ans que tu es sur le territoire, en comptant aussi mon année d'avant en stage. Donc, tu as le droit d'être sélectionné pour l'équipe nationale du Sénégal. »
Non.
Et du coup, nous, on est intéressés par ton profil. Et à ce moment-là, en fait, c'était la fin pour moi de Jumia. Mais j'avais la possibilité de partir pour le groupe Jumia pour une autre destination. À l'époque, c'était le Nigeria.
D'accord.
Donc, j'ai hésité. Après, ce qui est difficile, c'est quand on a commencé par le Sénégal en Afrique, bouger ensuite à Lagos, je n'avais pas forcément envie. Ouais. Et effectivement, donc j'ai lié ces deux projets qui étaient finalement mon premier projet, idée entrepreneuriale, que je vais vous décrire après, et le fait qu'il y avait cette opportunité rugbystique. Et je me suis dit, faire des Coupes d'Afrique, jouer pour une équipe nationale, la France, je savais que c'était fini depuis longtemps. Donc cette opportunité, je l'aurai qu'une fois dans ma vie. Donc je le tente et je le fais à fond et je reste au Sénégal. Et donc en restant au Sénégal, je me suis dit ok, j'avais une première idée entrepreneuriale autour des garages. Je t'en ai parlé un petit peu et c'est comme ça qu'on s'est lancé et que ça a démarré.
Oui, donc tu t'es lancé en 2018, tu lances cette application de réservation de mécaniciens avec cette idée de garage mobile. Alors c'était quoi le concept et comment tu es arrivé justement à ton nouveau projet qui est celui d'aujourd'hui ?
Oui. Alors, c'est parti d'un constat très simple. Hein, et au départ, basique, c'était que j'entendais autour de moi tout le monde se plaindre de son mécanicien et du fait que dès qu'une personne amenait sa voiture chez le garagiste, elle ressortait plus énervée qu'elle n'était entrée. Ouais. Alors, ça peut être aussi le cas en France, mais j'avais l'impression que c'était exacerbé au Sénégal. Donc, je me suis dit, il faut creuser, on va regarder comment ça se passe. Et pour schématiser à cette époque-là au Sénégal, quand on voulait amener sa voiture chez le garagiste, on avait deux options. C'était soit le concessionnaire de véhicules qui en fait coûte en général très cher, a des temps d'immobilisation longs, et en plus de ça était dans une zone très reculée, inaccessible de Dakar.
D'accord.
Soit ce qu'on appelle au Sénégal le banabana,
le banabana.
Qui est en fait le gars qui répare les voitures, mais dans la rue, il le fait comme ça, entre deux trottoirs. Et où en fait on a des gens qui savent très bien faire, mais il va bien faire une fois, il va pas forcément bien faire le lendemain, c'est pas forcément structuré, pas de facturation, etc. Oui. Et à cette époque-là, il y avait pas tout ce qui était Midas, Speedy qu'on connaît en France, tout ça n'existait pas au Sénégal. Donc on s'est dit on va faire cet entre-deux et on va le faire sur un aspect mobile, en se déplaçant, parce que ça évitait justement aux clients d'avoir à venir au garage, qui était parce que Dakar est une ville très congestionnée, donc c'était l'idée de base. Et on l'a voulu le faire sur du B2C et du B2B. Très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Donc le B2C, on a essayé, je pense qu'au bout de 2 mois, on s'est dit on arrête tout, c'est l'enfer à gérer, super compliqué. Et ensuite, on s'est dit bon, on va se concentrer sur les entreprises et on a commencé à faire ça. Donc on allait faire des entretiens de flotte de véhicules d'entreprise avec notre petit garage mobile. D'accord. Et 2 et 3 ensuite. Et oui. Au fur et à mesure, on a créé aussi un centre automobile à Dakar. Et voilà, et c'était une belle aventure. Alors pourquoi en fait on s'est dit à un moment on va pivoter vers autre chose?
Vous avez récolté les besoins aussi en même temps.
Oui, on a compris, on a beaucoup discuté avec nos clients sur cet aspect maintenant, c'est on a compris qu'autour de ça ils avaient aussi besoin de finalement de mieux comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau de leur flotte de véhicules et qu'une fois qu'elles étaient parties du bureau ils savaient plus en fait, ils savaient plus les gérer, ils savaient plus où elles étaient, combien elles consommaient, enfin plein de problématiques comme ça. Et à côté de ça, nous, on avait ce business de garage et on voyait bien une chose, c'est que c'était très compliqué opérationnellement à gérer. Parce qu'en fait, on gérait de l'humain, beaucoup d'humains. On gérait de la pièce détachée sur des véhicules qui étaient... vous connaissez des véhicules qui arrivent en Afrique où en fait, c'est super compliqué de gérer ça. On n'a pas comme en France une base de données où on sait qu'avec tel numéro de série de véhicule, c'est telle pièce.
Oui.
C'est pas comme ça là-bas. Donc en fait, il y a plein de fois, on arrivait chez le client, on n'avait pas les bonnes pièces, etc. Donc en fait, à un moment, on s'est dit, ce modèle, c'est sympa, c'est bien, c'est une jolie PME, elle marche, elle est rentable. En revanche, on n'en fera pas 3, 4, 5, 10, impossible. Oui. C'est pas réplicable.
Et le développement était compliqué.
Et quand même, dans l'idée de base, c'était de faire plutôt... On était parti sur une aventure dès le départ panafricaine en se disant on va essayer de faire quelque chose qu'on peut déployer sur du multi-pays en Afrique.
D'accord.
Donc, on s'est dit, OK, ça, on va pas y arriver. En revanche, sur cet aspect logiciel et remontée de données, il y a un truc à creuser. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Fiti, en fait, de discussion avec ces clients-là et à se dire... OK, qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui? On a commencé à regarder leurs logiciels, à les vendre, certains logiciels en distribution, et ensuite à se dire, OK, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un intérêt à modifier ces choses-là? Et puis à un moment, on s'est dit, bon, en fait, il y a vraiment un intérêt à faire un logiciel qui va optimiser la gestion des parcs de véhicules et en le pensant un peu différemment. C'est la genèse de l'histoire.
Fleety.
Voilà, de Fleety.
Et donc, Fleety naît en 2020, en pleine crise Covid. En Afrique. Et du coup, cette solution, j'aime bien le nom parce qu'elle vient en fait d'une base qui s'appelle le Fleet Management. Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire?
Je ne sais pas ce que c'est.
Je connais
bizarre,
le Lean, je ne connaissais pas le Fleet.
Alors, le Fleet, c'est un anglicisme, du coup, on utilise en France, mais ça veut dire gestion de flotte.
Okay. D'accord.
Et la gestion de flotte, c'est la gestion d'un parc. Ça peut être un parc de véhicules, ça peut être un parc d'ordinateurs, c'est souvent un parc d'actifs. Ok.
Okay.
Et quand on gère ces actifs-là, on a besoin de les optimiser, d'optimiser cette gestion-là pour qu'en général, elle nous coûte le moins cher possible, qu'elle soit la plus efficiente possible, qu'elle nous permette de sécuriser tous ces actifs. Et de plus en plus, on va y venir sur tout ce qui est aussi qu'elle ait le moins d'impact environnemental. Possible.
Ouais.
C'est sur ce triptyque-là qu'on a travaillé.
Et je comprends aussi maintenant la croissance de l'entreprise quand je vois comment c'est parti, comment c'est né. Vous avez vraiment compris la problématique de vos clients, vous avez creusé et vous avez du coup lancé Fleety. Et aujourd'hui, Fleety a trouvé son public. Elle ne cesse de prendre de l'ampleur, cette start-up. Tu as aujourd'hui plus de 400 clients en 3 ans. Tu as une équipe de 75 salariés et tu travailles pour des grands groupes comme Eiffage, Auchan, FedEx... La CMA-CGN, donc l'armateur marseillais, c'est assez incroyable. Et puis en plus, maintenant, un peu plus de clients locaux aussi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est parti et avec un rythme de croissance assez incroyable?
Effectivement. Alors, pour revenir sur le produit en tant que tel, et si j'essaie de le décrire de manière très simple, parce que c'est technologiquement, c'est un petit peu compliqué, mais... Finalement, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est placer des capteurs sur des actifs que vont être des véhicules, des camions, des engins TP. On peut aussi en placer sur des générateurs, des chambres froides, etc.
Des camions et frigorifiés.
Voilà, par exemple. Et on va faire remonter de la donnée de ces actifs-là. Derrière, nous, on développe des algorithmes et on a un logiciel qu'on vend, un seul logiciel, qui va leur permettre, avec toutes les données qu'on récolte, donc on récolte aujourd'hui des millions et des millions de data par jour, d'optimiser la gestion de ces actifs-là. Donc, si je donne un exemple très concret pour que les auditeurs aussi sachent de quoi on parle, c'est dans le secteur de la construction, par exemple, aujourd'hui, il faut savoir que les machines qui sont utilisées, 40% de leur temps, elles sont moteurs allumés et au ralenti. Donc, ça veut dire qu'elles consomment du carburant et qu'elles sont, et ça de manière pas efficiente, en fait. Et c'est des émissions CO2, c'est en fait l'usure de machines, c'est plein de choses qui en découlent derrière. Donc, nous, on va permettre de remonter ces anomalies-là au client et de lui permettre de prendre des décisions éclairées en fonction de la donnée qu'il reçoit. Donc, ça va être, voilà, ça peut partir du carburant, géologue, ça peut être la chaîne de froid, on fait plein de choses là-dessus, mais à travers la donnée. Donc on est dans le domaine de ce qu'on appelle l'IoT opérationnel. Et donc, on s'est lancé là-dessus, effectivement, ça a été très vite. Et ça a ses avantages et ses inconvénients. On s'est lancé en étant, donc, au départ, en sachant que notre marché serait africain, au départ, en ayant une base technologique ici à Bidar. Parce que j'avais aussi vécu ce qu'était l'accès au financement en Afrique avant, via ma précédente entreprise, et c'est très compliqué. Donc on voulait aussi, là-dessus, on savait qu'il nous faudrait de l'argent pour monter une technologie comme celle-là. Donc le fait d'être en France, c'était aussi se rapprocher d'investisseurs potentiels, les rassurer, parce que je savais que ça pouvait parfois inquiéter d'avoir une structure aussi parfois sur le continent. Donc on a fait ça. En plus de ça, on avait accès à des ingénieurs de qualité autour. On a été accompagné par l'Estia, qui nous a bien aidés dans notre déploiement initial. Donc tout ça faisait que voilà, on s'est mis en France. Et aussi le fait qu'on oublie parfois de le dire, mais en France, on a quand même de beaux mécanismes, que sont notamment la BPI ou ce genre d'acteurs qui aident vraiment au financement.
Des
choses comme le crédit impôt innovation qui nous paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas du tout quand on discute avec d'autres entrepreneurs. Donc voilà. Donc on a fait ça et on a développé cette technologie-là. On s'est déployé sur le continent. Aujourd'hui, effectivement, on est 75 collaborateurs. On est sur 12 pays. On a des clients dans le secteur de la construction, du transport logistique, tout ce qui est FMC, donc les supermarchés. On travaille avec les gouvernements. Bon, voilà, c'est assez varié parce que finalement, des actifs, des véhicules, on en a un peu partout et dans tous les secteurs. Donc, ce besoin-là, il est assez prégnant. Et ce qui est aussi très positif, et là où je suis super content aujourd'hui, c'est qu'on se déploie de plus en plus ici, dans le sud-ouest aussi, en France. Et c'est un bon signal que de se dire que l'outil qu'on a développé arrive aussi à être pertinent en France.
Oui, parce qu'on l'imagine bien en Afrique où le véhicule, il part, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qui se passe. Mais au final, en Europe, c'est aussi intéressant pour les grandes marques de suivre leur véhicule.
Voilà. Alors, on a de la concurrence et il y a des gros acteurs, clairement, en France. Mais on arrive à prendre une petite place. On le fait beaucoup dans le sud-ouest. Et je dois dire qu'il y a quand même, parce qu'on parle on est dans le podcast French Tech Pays Basque.
Oui.
Donc, il y a quand même un truc très positif ici. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises en local qui, lorsqu'elles peuvent le faire, privilégient aussi des fournisseurs locaux.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est super positif. Et ça nous a bien aidé encore une fois au départ. Et on a des groupes comme le groupe Klim, Slavi Klim, qui aujourd'hui nous distribue dans toutes ses concessions et qui nous a fait confiance au tout début de l'aventure. Et qui nous a vraiment permis de nous développer assez rapidement. Des groupes comme TPM, etc., où on avance avec eux. Et ils se sont dit, on avait plusieurs acteurs et des plus gros en face de nous et on va leur faire confiance. Ils sont ici, ils sont à côté, il y a du service. Et ça se passe plutôt très bien. On est ravis
d'entendre ces bonnes nouvelles. Et c'est vrai qu'ici, les acteurs ont un esprit d'équipe. Et j'entends, esprit d'équipe locale. Et si on peut aider les acteurs locaux, moi je le sens et je le vois aussi autour de moi, au sein de la French Tech Pays Basque, dès qu'on peut, on le fait. Et on reste en local et on soutient l'économie locale. Donc,
c'est ça. Et il faut le souligner parce que c'est pas toujours le cas. Et voilà, donc ça, c'est super positif. Et après, pour revenir sur effectivement cette vitesse-là et ce chargement-là, aujourd'hui, donc je dis, on est dans 12 pays et on est peut-être 15 nationalités. C'est ça qui est génial, super challengeant, mais qui fait aussi qu'on s'éclate.
Mais oui, mais c'est exactement, j'allais y venir, je me suis dit, donc là, vous êtes basé à Bidar, à Paris, en Afrique. Toi, en tant que posture de manager, comment tu gères cette équipe qui est répartie dans le monde entier? Comment tu arrives à gérer la distance? Quelles sont les clés que toi, tu utilises pour y arriver?
Alors, on ne peut pas se dédoubler, clairement. Donc, je dirais que la première des clés, c'est l'équipe. Alors, on le dit souvent, mais j'insiste et je pense que c'est... Aujourd'hui, c'est clairement ce qui fait que Flity s'est déployé à cette vitesse-là. C'est qu'on a de super personnes dans notre équipe.
L'humain
avec lequel on construit, on avance, on grandit. Et sur lequel, en fait, aujourd'hui, on peut se reposer et se dire, quand je suis pas là, je sais que cette personne-là, elle gère et elle le fait bien et on est aligné sur la trajectoire, sur les valeurs, sur beaucoup de choses. Et là-dessus, on a fait quelques erreurs de recrutement, mais je pense qu'on a pris le temps d'aller chercher des... On a été chercher plutôt des profils de personnes qui avaient le caractère qu'il fallait plutôt que les compétences au départ et qui ont grandi avec nous. On a aussi aligné nos intérêts. On essaie de le faire au maximum en faisant rentrer de plus en plus de personnes aussi capitalistiquement dans l'entreprise. Et après, c'est du donnant-donnant. Voilà, il faut aussi proposer des choses, proposer des évolutions. Là, on arrive, ça va faire 3 ans. On a des personnes qui sont avec nous depuis le départ, donc qui ont besoin d'être challengées intellectuellement, ouais. D'avancer. Et ça, il faut être capable de toujours fournir cette matière pour avancer. Mais je pense que c'est ce qu'on... Voilà, on fait très attention à ces choses-là. Et c'est ce qui nous a, je pense, beaucoup aidés.
Ouais, on sent que vous êtes à l'écoute de l'équipe. Et d'ailleurs, vous avez un positionnement aussi social différenciant. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Effectivement, on se transforme en ce moment en société à mission.
Oui.
Donc, on a mis en place un premier comité de mission. Ça vient d'une réflexion qu'on a eue au tout début avec Gabriel, mon associé, quand on a monté l'entreprise. C'était de se dire, OK, on veut monter un business, on veut créer une aventure entrepreneuriale, etc. Et après, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur. Et c'était
valeurs,
de se dire... Comment on peut avoir de l'impact ? Alors moi maintenant, je suis persuadé que d'abord l'impact, il faut en avoir au sein de l'entreprise avec ses collaborateurs. Et ensuite, c'est comment on peut en avoir en externe, sur l'écosystème dans lequel on évolue. Et là-dessus, ce qui est très positif aussi, c'est que on a des collaborateurs qui viennent aussi ou qui sont sensibles à ces sujets-là. Et en fait, cette réflexion de devenir la société à mission, ce n'est pas Gabriel et moi qui avons dit demain, on va devenir une société à mission. Non. C'est une envie générale des équipes FITI de se dire comment on peut faire plus pour notre écosystème.
D'accord.
Et donc, c'est tous ensemble qu'on a amené et on est au tout début du chemin. Tu vois, juste après ce podcast, j'ai une réunion justement pour travailler sur nos changements statutaires. Donc, qu'est-ce qu'on va inscrire dans nos statuts concrètement ? Parce que le comité à mission demande un changement statutaire. Donc, on est en train de finaliser ça et on va changer nos statuts là-dessus. Et en fait, ce que permet ça, c'est de définir donc, des objectifs sociaux environnementaux et de se dire... Demain, finalement, si Iban n'est plus là, Gabriel n'est plus là, ou les personnes qui font FITI aujourd'hui ne sont plus là, qu'on s'accorde à dire que, en fait, ça sera inscrit dans les statuts et que FITI va garder une ligne directrice.
FITI, okay, reste FITI.
Il restera et il va mettre ses valeurs et ses objectifs au cœur de son activité. Donc, c'est super intéressant, mais ça prend beaucoup de temps à faire. Nous, on a pris un consultant externe. Et là-dessus, je remercie aussi nos fonds d'investissement qui nous ont aidés à nous transformer pour devenir aussi société à mission, qui nous ont encouragés dans la démarche.
C'est
pas toujours le cas,
ouais.
Parce que ça implique des choses aussi. Enfin, quand on parle de statut, ça implique aussi des choses au niveau financier.
Ben oui.
Et donc, nous, ils ont été très supportifs là-dessus. Et donc, ça, en fait, c'est l'ensemble de FITI, que ce soit ses actionnaires, ses dirigeants, ses collaborateurs qui se sont lancés dans ce projet. Et ça fait 8 mois qu'on travaille dessus et on n'a toujours pas changé encore nos statuts.
Ça
prend du temps.
Mais c'est ça qui est exemplaire, c'est que tu as été soutenu par tes investisseurs, tu as réussi à fédérer ton équipe, tes investisseurs, tout le monde autour de ce projet. Et ici, il n'y en a pas encore beaucoup, donc vraiment, bravo pour ça. Et donc, en tant que société à mission, en plus, avec bientôt, je l'espère, 100 salariés et cette forte croissance, quels sont les projets à court, moyen et long terme de FITI ?
Alors, ils sont multiples. Je pourrais t'en citer des centaines. Mais,
les 3 grands champs prioritaires à venir.
Je te dirais en premier structuration, parce que quand on évolue si vite, je disais, il y a des avantages et des inconvénients, il faut faire attention. C'est très bien d'avancer rapidement. Il ne faut pas perdre pied, parce qu'en fait, quand on va à cette vitesse-là, on voit ce qui se passe en ce moment dans le domaine de la technologie, des startups, etc., c'est qu'il ne faut pas perdre de vue ce qu'est une entreprise. Et une entreprise, elle est là pour gagner de l'argent. Okay ? Donc, aller vite, c'est bien. Mais avant tout, il faut gagner de l'argent.
Ouais. Donc, nous,
Sécuriser et se dire, on est là aujourd'hui. Et moi, enfin, je n'ai pas envie d'une entreprise où je me dis, je construis et peut-être que dans 6 mois, je ne suis plus là. En tout cas, j'en ai plus envie. Je pense que C'est quelque chose qui doit exister et qui est intrinsèque au modèle de start-up. On en a besoin au départ, forcément, parce qu'on sait que pendant quelques années, on va perdre de l'argent. Okay ouais. En revanche, il faut avoir une idée très claire et un plan, je pense, défini pour savoir à quel moment on va gagner de l'argent, comment on va gagner, et pas rêver.
Ouais.
Pas se dire peut-être que, ou si ça, ça tombe, ou truc. Non, non.
Poser c'est se les dire ambitions
globalement,
concrètes.
Qu'est-ce qu'on va faire ? Et est-ce que si on fait ça, enfin, on va le faire, et si on le fait, est-ce qu'on permet à l'entreprise et à tous ses collaborateurs de vivre sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années ? Et aujourd'hui, nous, on construit Fiti pour 20 ans, pas pour 1 ou 2 ans. Et donc là-dessus, il y a une responsabilité, qu'elle soit envers ses actionnaires ou ses collaborateurs, de se dire... mais quand on veut construire de manière pérenne, il faut à un moment aussi viser à être rentable. Donc nous, objectif 2024, je dirais le premier truc, c'est on a ce qu'il faut pour être rentable fin d'année prochaine et au niveau groupe, ce qui est relativement rapide dans notre domaine, sur une société qui est très tech, donc où il y a de la R&D, il y a beaucoup de choses qui consomment quand même beaucoup d'argent.
Ouais.
Mais en tout cas, on se fixe ça comme objectif et c'est dans nos cordes, clairement. Et on a des super signaux, on a les premiers pays qu'on a lancés en Afrique sont rentables aujourd'hui, donc ça c'est quand même des bons signaux.
En 3 ans, et
voilà.
C'est quand même incroyable.
Et surtout que c'est des modèles où on sent qu'en fait les modèles se suivent, on voit que les pays suivent à peu près les mêmes trajectoires, donc on commence à avoir quelque chose de clair et défini sur, ok, quand on ouvre un pays,
combien
il faut X centaines de milliers d'euros, il faut tant d'actifs connectés, et on sait qu'on met un pays sur pied et qu'il est rentable, quoi. Donc ce modèle-là, on veut continuer à le déployer. On a des gros sujets dont je ne peux parler aujourd'hui, mais enfin en tout cas très brièvement, mais qui est finalement aussi d'essayer de pas forcément parler au client final, mais de travailler aussi avec les constructeurs automobiles.
D'accord.
Donc voilà, on a des sujets de R&D sur lesquels on avance aujourd'hui et qui sont super intéressants.
Ouais.
Donc ça aussi, voilà pour 2024, il y a des choses là-dessus. Et voilà, et ensuite cet aspect aussi local, France, en tout cas Grand Sud-Ouest, de se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, continuer à avancer avec nos partenaires. Je pense que voilà, enfin c'est aussi dans nos objectifs. Après, financièrement, on a ce qu'il faut aujourd'hui. On a sécurisé les financements qu'il fallait avec nos investisseurs pour se dire on sait qu'on a ce qu'il faut pour les 2 prochaines années. Donc,
et
ça va.
Les prochains pays, par exemple, sur lesquels vous allez vous implanter, Fiti?
Alors, il y a plein d'options sur la table. Moi, j'aimerais te dire, j'espère qu'en 2024, il n'y en aura pas 5 de plus.
Ouf.
Et j'espère qu'il n'y en aura même pas forcément plus en ouverture, parce que je pense qu'en moins, il faut stabiliser. Et là, on n'est plus dans cette démarche sur 2024. Après, je pense que toute personne qui a cet esprit entrepreneurial ne se ferme aucune porte.
Bien sûr.
On regarde aussi des opérations potentiellement de rachat.
Okay.
Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a commencé tous nos pays de zéro. Et là, on discute de plus en plus avec des concurrents qui n'ont pas forcément de technologie, mais qui ont des portefeuilles clients et qui seraient intéressés. Et nous, cet aspect croissance externe aussi, voilà, c'est des choses qu'on étudie aujourd'hui.
Non, mais très bien. Donc, consolidation, croissance,
voilà, et
réflexion autour du statut.
Effectivement. Et tout ça, le faire dans la durée.
Et donc, pour toi, une entreprise, on va dire, internationale maintenant, Fiti, en quoi l'association French Tech Pays Basque, elle te soutient ici au niveau de l'écosystème local ?
Alors, je pense le mérite premier de cette association, c'est de mettre en lumière les initiatives tech au Pays Basque. Et je pense qu'on en a bien besoin. Est-ce qu'on a, enfin, que ce soit dans l'industrie, la tech, aujourd'hui on a parfois tendance à juste voir le Pays Basque comme une terre de tourisme, alors qu'il y a plein d'autres choses qui se font au Pays Basque et c'est important. Alors, Fiti, on est tout petit dans cet écosystème-là, mais il y a de superbes entreprises, je pense à Sophia Génétique, à Voltaire, etc., qui sont quand même de très belles réussites
très
entrepreneuriales sur le domaine de la technologie. Donc, là-dessus, merci à la French Tech. Non, et à côté de ça, des moments comme celui qu'on passe qui nous permettent aussi de communiquer sur l'entreprise. Je pense aussi qu'il y a tout cet aspect conférence, partage d'informations qui font sens et nous aident en tant qu'entrepreneurs. Voilà, je pense que ça c'est super positif. Et on en a besoin, et je le vois parce que moi, aujourd'hui, je vis entre Paris et Biarritz.
Oui.
Et je vois ce qui se passe à Paris et à un moment, clairement, quand l'écosystème est là, ça va plus vite.
Mmh. Bien sûr.
Tout va plus vite, que ce soit pour les levées de fonds, pour les mises en relation clients, pour voilà. Donc, plus on pousse pour que ça se passe au Pays Basque et qu'on ait quelque chose de fort au Pays Basque, mieux ce sera pour les entreprises qui sont sur le territoire.
Qui sont locales. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que la French Tech vous accompagne, les entrepreneurs comme toi, Iban. Merci beaucoup pour cet échange. On te souhaite énormément de succès et de beaux déploiements encore, la consolidation. Et je te félicite encore une fois pour le statut d'entreprise à mission. C'est vraiment hyper important. Nous, pour la French Tech, on pousse énormément à cette transition écologique, environnementale et sociale. Donc voilà, un grand bravo de tout cœur. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur la solution Flity, je vous invite aussi à découvrir la vidéo de présentation qui démarre à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc justement dans ta ville, dans ton village natal. Donc je vous invite à aller sur YouTube, sur la French Tech Pays Basque. Donc à très bientôt.
Merci beaucoup, Nina.
Ciao.
À plus.